Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Gros plan dans notre émission de ce soir sur une région souvent méconnue, le Xinjiang, province qui représente à elle seule un sixième du territoire chinois et où depuis le mois de mars, les autorités rivalisent d'imagination pour mater tout ce qui pourrait ressembler à un début de rébellion ouïghour, nom de cette ethnie musulmane et turcophone qui peuple la province chinoise. Interdiction de la barbe anormale, du voile intégral, campagne de délation, contrôles incessants, déploiements policiers et militaires hors normes. Sous prétexte de lutte antiterroriste, les 10 millions de musulmans de cette province sont la cible de nouvelles mesures liberticides. C'est ce qu'écrivait Laurence Defranoux début avril dans le journal Libération. Attention toutefois, la menace terroriste est bien là. Ces dernières années, plusieurs attentats ont été attribués aux militants ouïghours. Plusieurs dizaines d'entre eux ont aussi rejoint les rangs de l'État islamique, plusieurs centaines, l'État islamique qui a menacé directement Pékin début mars. Mais la faction islamiste, même encouragée par la répression, ne représente toujours qu'une part minoritaire du peuple ouïghour. Alors Xinjiang, nouveau Tibet, eh bien c'est notre sujet de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Le premier est à mes côtés, Jean-Philippe Béja, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS série Sciences Po, spécialiste de la politique chinoise. Vous avez publié de très nombreux ouvrages. Signalons que vous avez présenté un ouvrage rédigé par le prix Nobel de la paix chinois, Liu Xiaobo, qui s'intitule « La philosophie du port et autres essais » qui a été publié chez Gallimard. Avec nous, en direct par téléphone cette fois, Rémi Castet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, rattaché aux séries Sciences Po, vous aussi, maître de conférences en langues et civilisations chinoises à l'université Bordeaux-Montaigne, et vous êtes par ailleurs chargé de cours à Sciences Po Bordeaux. Alors Rémi Castet, je voudrais commencer avec vous, vous êtes un peu dans cette émission le spécialiste des Ouïghours de cette province. Comment est-ce que vous analysez ce qui se passe depuis quelques semaines au Xinjiang? Est-ce qu'on assiste à une forme de tournant ou à une forme d'accélération des choses?
Disons que le tournant a été amorcé depuis déjà plus d'une quinzaine d'années. Donc dans les années 90, les autorités chinoises, face à la multiplication des troubles, ont décidé de mettre en place un appareil juridique et répressif destiné à stabiliser la société ouïghour. Mais disons qu'on est arrivé à un tel niveau de contrôle sur la société qu'aujourd'hui, on arrive à des niveaux, je pense, contre-productifs.
Alors, peut-être pour être concret pour nos auditeurs, aujourd'hui, quel contrôle pèse sur les Ouïghours qui vivent dans la province du Xinjiang?
Alors, le contrôle s'exerce avant tout au niveau politique déjà. Théoriquement, la région donc du Xinjiang est une région autonome, mais en réalité, cette autonomie n'est pas effective dans la mesure où les institutions régionales sont sous le contrôle du Parti communiste chinois, qui lui-même est dirigé par des Han désignés par Pékin.
Donc, Han, ethnie majoritaire en Chine.
Voilà, tout à fait. Plus de 90% de la population chinoise. Deuxièmement, on contrôle aussi sur les activités culturelles et religieuses. Ça, c'est la grande nouveauté des années 90. Les années 80 avaient été des années d'ouverture avec l'arrivée au pouvoir des réformateurs en Chine. Et ça avait été vécu par les minorités, les Tibétains et les Ouïghours, un petit peu comme un âge d'or, où sans bénéficier non plus d'une liberté totale, ces populations avaient pu se retourner vers leur culture, vers les pratiques religieuses. Et dans les années 90, l'opposition montant à la fois au Tibet et au Xinjiang, une opposition anticoloniale, opposée notamment au Xinjiang à la colonisation démographique de la région, eh bien les troubles se sont multipliés, les autorités ont fermé ces espaces de liberté. Et donc aujourd'hui, par exemple, la pratique de l'islam au Xinjiang est extrêmement surveillée. Et donc vous avez évoqué ces mesures des fois un petit peu ubuesques où un port de barbe peut vous valoir une arrestation ou le fait d'avoir surfé sur un site internet jugé assez peu catholique peut vous valoir une arrestation, voire même des fois des peines de prison.
Oui, puisqu'on raconte dans certains reportages, alors rares sont les journalistes à avoir un accès simple à cette province, mais que par exemple il peut y avoir des contrôles policiers dans la rue et on vérifie si vous n'avez pas un SMS qui peut éventuellement susciter le doute pour les autorités à Pékin. Jean-Philippe Béja, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu l'arrivée d'un homme fort du Parti communiste chinois qui arrive justement du Tibet, qui s'appelle Chen Chuanguo, j'essaie de bien le prononcer, et qui est donc celui qui chapeaute un petit peu la politique chinoise dans la province. Est-ce que ça, c'est un signal ?
Oui, bien sûr, on peut dire que, bon, je suis d'accord avec Rémi Castel, les choses ont commencé à se détériorer en 1995, et il y a eu un certain nombre de... Et ça, en fait, loin d'apaiser la situation, on a vu des tensions de plus en plus fortes, qui avaient culminé un petit peu en 2009, en juillet 2009, avec les grandes émeutes de Urumqi contre, qui ont vu mourir plus de 100 ou 200 rannes.
Urumqi, c'est la capitale,
la capitale
pour que ce soit clair pour nos auditeurs.
Et donc, là, à ce moment-là, il y a eu une tentative d'adopter une politique un petit peu moins dure, et ça a été l'envoi d'un nouveau secrétaire après Wang Lechan, qui était là depuis 94 jusqu'à 2009 et qui s'était distingué par une politique très forte. On a envoyé Jiang Chun-tien, et c'était aussi le moment où on lançait la politique de une ceinture, une route, qui est la politique de la nouvelle route de la soie, où on devait résoudre les problèmes du Xinjiang grâce au développement de l'économie. Et puis, ça n'a pas marché. Il y a eu plusieurs offensives, plusieurs épisodes terroristes, d'ailleurs, non seulement au Xinjiang, mais également dans le reste de la Chine, puisque Kunming, Pékin, etc. Et là, Xi Jinping, qui déjà a repris les choses en main, pense rendre le pouvoir au Parti communiste, a nommé Chen Qianguo. Chen Qianguo, qui avait fait ses preuves au Tibet en organisant un quadrillage de la population extrêmement sérieux, où les gens ne peuvent pas... ça ressemble un petit peu à ce qui se passait dans les années 50 dans le reste de la Chine, d'ailleurs. Il est très difficile de se déplacer, il faut avoir des autorisations, et l'interdiction au cadre du parti, bien sûr, de se rendre dans au Tibet, c'était dans les monastères, et au Xinjiang, interdiction de pratiquer la religion musulmane. Donc ce durcissement est extrêmement net avec l'arrivée de Chen Qianguo, rappelant que Chen Qianguo, en plus, espère rentrer au bureau politique.
Alors on va y venir, il y a des échéances effectivement voilà. qui arrivent à l'automne. Rémi Castet, alors je sais bien que vous êtes plutôt spécialiste du Xinjiang, mais cette comparaison avec le Tibet, vous l'avez un petit peu amorcée tout à l'heure, est-ce qu'elle vous le semble pertinente ?
Oui, c'est, les situations sont vraiment comparables. Alors la seule différence, c'est que le territoire du Tibet se prête moins bien à la colonisation démographique. C'est-à-dire la proportion de Han au Tibet est inférieure à la proportion donc de Han de Chinois ethniques au Xinjiang. Il faut savoir qu'au Xinjiang, la part des Han est passée de 6-7% à la fin des années 40 à aujourd'hui plus de 40% de la population locale. Mais effectivement, le système de contrôle, les dispositifs mis en place par l'État pour surveiller et encadrer la population et les restrictions des libertés sont à des niveaux comparables.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une grande différence à opérer entre le Xinjiang et le Tibet dans la médiatisation ? Alors là, évidemment, on parle de pression, mais Jean-Philippe Béja, le Tibet, c'est le Dalai Lama, c'est le bouddhisme, c'est l'Himalaya, ça a une très très forte image. Le Xinjiang, on n'en parle presque pas.
C'est Hollywood aussi. Évidemment, il manque un Dalai Lama aux Ouïghours, les pauvres. C'est quelque chose de beaucoup moins attractif pour l'ensemble du monde occidental. En Occident, on a surtout peur du développement de l'islamisme, du fondamentalisme musulman, du terrorisme, et il faut bien dire que une large partie des pays occidentaux sont assez heureux que les Chinois tiennent leurs Ouïghours de façon extrêmement dure et les empêchent de se joindre à l'ensemble du mouvement terroriste international. C'est un calcul à très court terme, car il faut bien voir que depuis 1995, alors qu'il y avait très très peu de mouvements, je ne sais pas ce que dira Rémi Castex là-dessus, de mouvements fondamentaliste islamique, on voit un certain développement depuis les dernières années, car la répression totale contre la pratique de la culture la plus fondamentale, de la culture ouïghour, l'interdiction de porter la barbe bien sûr, mais aussi de faire des fêtes ouïghours traditionnelles, etc.
Restrictions sur le ramadan aussi, par exemple.
Sur le ramadan, mais je dis pas simplement, non seulement religieuse, mais également culturelle. Ça pousse véritablement une large partie des jeunes ouïghours à désespérer totalement de leur avenir à l'intérieur de la Chine. Alors je voudrais simplement rappeler aussi la condamnation de Ilham Tohti. Ilham Tohti était un intellectuel ouïghour installé à Pékin depuis très longtemps, professeur à l'université des minorités, et Ilham Tohti a un blog dans lequel il prône justement la discussion entre les Han et les Ouïghours. Et son idée, c'est simplement de défendre la spécificité ouïghour, bien sûr, et les caractéristiques du peuple ouïghour, mais de s'opposer à toute relation violente entre les minorités. Or, en 2014, Ilham Turti, qui n'a jamais prôné la violence et ne s'y est bien sûr jamais adonné, a été arrêté à la fois par la sécurité publique de Pékin et celle d'Urumqi. Il a été ramené à Urumqi pour y être jugé alors qu'il est résident à Pékin et il a été condamné à la prison à vie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir chinois, qui s'est déjà débarrassé de gens comme Rebiya Keder, qui était, rappelons-le, hein, elle est aujourd'hui à l'étranger, mais elle était à l'époque un personnage en première page du quotidien du peuple. Maintenant, Ilham Turti, qui prônait la discussion entre les Ouïghours et les Han, se retrouve lui aussi condamné à la prison à vie. Dans ces conditions, quelle solution pour les Ouïghours qui cherchent une solution pacifique dans leur relation avec les Han?
C'est extrêmement difficile. Alors, c'est justement là que je voulais en venir avec vous, Rémi Castet. Quelle est aujourd'hui la réalité du risque terroriste? Combien de personnes représentent-ils? Ces radicalisés sont-ils une poignée? Enfin, voilà, on est sur quel type de proportion?
Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Jean-Philippe Béja. Donc aujourd'hui, on est face à une tendance ascendante de ces mouvements. Comme le rappelait Jean-Philippe, dans les années 90, ils étaient extrêmement minoritaires. On est dans une situation, en fait, où la répression et la difficulté donc de pratiquer la religion a amené une partie des Ouïghours à considérer que l'État s'est attaqué à leur identité culturelle et en particulier à leur identité religieuse. Donc, les nationalistes, eux, ont renoncé à la violence dans les années 90. Leur modèle, c'est le modèle politique tibétain. Ne sont restés adeptes du combat que justement ces mouvances islamo-nationalistes qui ont dérivé dans les années 90-2000 vers le djihadisme international. Alors c'est très difficile en fait de quantifier le nombre de combattants. Aujourd'hui, donc la principale organisation djihadiste ouïghour s'appelle le Parti islamique du Turkestan. Elle a deux bases de repli, une première base dans les zones pakistano-afghanes et depuis donc 2013, une nouvelle base, une nouvelle caisse de résonance qui a permis au mouvement de prendre l'ampleur. Donc c'est la branche donc en Syrie. Et donc on estime leur présence à peut-être donc plusieurs centaines de combattants avec leur famille parfois. Hein. Ce sont des gens qui ont fui la Chine avec femmes et enfants. Et donc ils sont installés dans la région d'Idlib, donc dans le nord-ouest de la Syrie.
Et alors, est-ce que justement le terrain syrien a changé des choses? Est-ce qu'il y a eu une accélération? Est-ce que les Syriens ont réussi à profiter de cette radicalisation de la répression en Chine pour recruter au Xinjiang?
Tout à fait. Et je parlais de caisse de résonance. Le djihad ouïghour est rentré dans une nouvelle phase. C'est-à-dire que jusqu'à présent, bon, voilà, il y avait quelques dizaines de militants, peut-être une centaine. Allez. Et le djihad en Syrie, avec la couverture médiatique, mais aussi l'utilisation aussi des nouveaux moyens de communication, c'est-à-dire ils sont très actifs sur Twitter, sur Facebook, leur permet de communiquer en fait dans l'ensemble du monde arabe et notamment de rencontrer aussi des militants des pays du Golfe et donc d'accéder à de nouvelles sources de financement. Et c'est assez évident, maintenant on voit un développement des contenus de leur site internet, on voit les moyens financiers qui arrivent, on voit des prêcheurs du Golfe qui commencent là aussi à inciter les populations arabes à soutenir financièrement cette Katiba Ouïghour, hein, cette brigade Ouïghour. Et en plus, ils se sont illustrés durant les combats. C'est-à-dire que les Ouïghours, qui étaient perçus un petit peu comme des combattants secondaires et dont qu'on n'avait pas vu forcément faire leurs preuves, voilà, ont combattu parfois vaillamment en Syrie et ça leur a valu la reconnaissance d'une partie de leurs camarades djihadistes. Et donc aujourd'hui, ils sont pleinement intégrés dans ces réseaux. Ils combattent notamment au sein du front de Jabhat al-Nosra. Il faut savoir aussi que les leaders du Parti islamique du Turkestan font aussi partie, hein, depuis quelques années, de la Shura Meilis d'Al-Qaïda.
Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a effectivement un vrai risque terroriste, c'est ce que vient de nous expliquer Rémi Castet. Et en même temps, Jean-Philippe Béja, derrière cette justification du pouvoir chinois, il y a aussi d'autres choses, une volonté de stabiliser, une volonté de sécuriser cette fameuse route de la soie qui tient à cœur de Xi Jinping, et ce, à l'aune d'échéances échéances dont vous parliez tout à l'heure qui sont importantes pour le parti dans quelques mois.
Oui, alors pour rappeler la politique du Parti communiste chinois, c'est de se dire si on développe l'économie, eh ben écoutez, il n'y aura pas de problème, on n'aura plus de terrorisme, etc. Donc il y a deux volets dans l'action du parti depuis l'arrivée aux affaires de Xi Jinping. L'une, c'est développer au maximum l'économie. Kashgar devrait devenir pratiquement un nouveau Shenzhen, hein, c'est-à-dire que ce serait une zone économique spéciale qui serait aux confins de l'ensemble de l'Asie du centrale et qui devrait devenir une capitale économique. On a d'ailleurs détruit l'ensemble de la ville de Kashgar pour faire aujourd'hui une fausse ville. C'est aussi quelque chose qui est très important, qui a été très mal ressenti par les gens du Nanjing. Et puis d'autre part, c'est la répression. C'est-à-dire que d'un côté, le développement économique, de l'autre, on envoie les SWAT, c'est-à-dire si vous vous baladez à Retien ou à Kashgar, vous avez des policiers avec des armes, des gilets pare-balles, etc. Et donc, évidemment, c'est ça. Et pour ça, il fallait envoyer... Alors bon, vous savez, la plupart des dirigeants provinciaux sont dans l'ensemble d'accord avec le numéro 1. Hein. Faut pas croire non plus qu'il y a des grands libéraux ou que Jiang Chun-sien était un révolutionnaire qui allait tout démocratiser. Mais ce qui est évident, c'est que dans l'optique de ce 19e congrès qui va voir l'ensemble de la direction chinoise, hein, 5 membres du comité permanent du bureau politique sur 7, ou 4, alors 4 ou 5, c'est très difficile.
Là, ça devient technique.
Ça, c'est quelque chose d'un peu trop compliqué. Mais disons que il va y avoir un grand remplacement et le bureau politique, lui aussi, va se renouveler. Dans ces conditions, quelqu'un comme Chen Chiangguo montre qu'il est tout à fait capable de mettre en œuvre la nouvelle politique et d'obtenir que l'ordre règne à Urumqi, j'ai envie de dire. Alors, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, en faisant régner l'ordre à Urumqi, il renforce aussi tout ce que vient de décrire Rémi, c'est-à-dire c'est cette force d'un mouvement
islamiste. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il pourrait y avoir un contre-coup, du coup.
Écoutez, oui. Alors, évidemment, on enverra de plus en plus de policiers et de militaires au Xinjiang. Mais rappelons-le, hein, c'est quelque chose qui a duré pendant les années 60 et 70. Et il y a eu une très forte répression. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'islamistes. Mais on s'est rendu compte que c'était une impasse. C'est-à-dire que quand Mao est mort, Deng Xiaoping et Hu Yaobang sont arrivés au pouvoir et ils ont changé de politique à l'égard des minorités nationales, des Ouïghours et des Tibétains. Je crois que ce sera exactement la même chose. Cette politique de répression, alors il y a une chose, la possibilité c'est évidemment de noyer les Ouïghours sous une population Han. Mais les Han eux-mêmes ne sont pas non plus toujours très contents et ils ont peur d'aller au Xinjiang. Ça fait véritablement quelque chose de très difficile. Donc je suis pas sûr du tout que cette politique de radicalisation sera efficace.
Sur cette question, Rémi Casté, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Philippe Béja ?
Non, je partage son analyse. En fait, une analyse effectivement assez pessimiste. Je pense que voilà, le parti a fait le choix donc de miser à la fois sur le développement économique. Le problème, c'est qu'en même temps, ce développement économique, ces fonds sont souvent injectés dans les zones de colonisation pour les rendre attractives. Et donc, perversement, ça augmente en fait des inégalités de revenus qui s'articulent le long de lignes ethniques. Donc, par exemple, dans le sud du Xinjiang, la majorité ouïghour, le revenu moyen par habitant est de la moitié de celui du nord du Xinjiang, où on a une majorité aujourd'hui chinoise. Donc, ça renforce le sentiment des ouïghours d'être des habitants de seconde zone, en fait, sur leur propre territoire.
Et le fait, Jean-Philippe Béja nous disait tout à l'heure, il manque un Dalai Lama ouïghour. Là-dessus, vous êtes d'accord, quelqu'un qui pourrait cristalliser un peu cette opposition, mais politique, pas armée ?
Alors, bon, voilà, Jean-Philippe a parlé de Rebi Akadir, donc les Ouïghours parlent de leur Dalai Mama, parce que c'est une femme, Rebi Akadir, féministe, qui a été élue à la tête du Congrès mondial Ouïghour au milieu des années 2000, et qui dans un premier temps a redonné une dynamique à ce Congrès mondial Ouïghour, qui est en fait une structure qui fédère l'ensemble des organisations nationalistes.
Et il ne reste plus que quelques secondes aujourd'hui, oui. quel est son rôle?
Alors, elle donne une image positive des Ouïghours, puisque c'est une femme businessman indépendante, mais malheureusement, elle-même constate aussi la montée en puissance dans la diaspora de ces nouvelles organisations islamistes, et elle-même commence à être préoccupée par la question.
Eh ben écoutez, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. On va terminer. Alors c'est pas très gai, mais merci à vous deux pour vos analyses. Rémi Casté, qui était donc avec nous par téléphone, docteur en sciences politiques rattaché aux séries Sciences Po, maître de conférences en langue et civilisation chinoise. Merci à vous, Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS, série Sciences Po, spécialiste de la politique chinoise. Merci à Florence Ponce, à Valentin Vaner. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur RFI.